forum
Chers auditeurs, bonsoir, bienvenue dans votre émission quotidienne Le Forum du Studio Kalangou, une émission qui vous permet de trouver des réponses aux questions que vous vous posez au quotidien. Notre thématique du jour, c'est interdiction des cours de soutien dans les établissements publics et privés par le ministère des Enseignements secondaires, objectif visé et respect de la mesure. Quel est l'objectif visé à travers cette mesure? Les parties avaient-elles été consultées au préalable? Quelles sont les conséquences qui peuvent découler de cette interdiction? Sur quoi les différents protagonistes peuvent s'entendre? Pour répondre à ces questions, nous recevons comme invité Wisliman Ransratan, vice-président de l'Association des parents d'élèves et des étudiants. Nous avons Mohamed Abdou Morou, représentant de la section lycée et collège de l'USN, et Moussa Adamou, secrétaire général du syndicat des enseignants du secondaire SNES Niger. Et nous avons Inoussa Garba, qui est le directeur général des enseignements. À la présentation de cette émission, Alassane Kouzi Mahamadou, merci à tous d'avoir accepté de participer à cette émission. Bienvenue à tous dans le forum du Studio Kalangou. Je le disais, notre thématique d'aujourd'hui porte sur l'interdiction des cours de soutien dans les établissements publics et privés par le ministère des Enseignements secondaires. Par une circulaire, en date du 1er avril, le ministère des Enseignements secondaires interdit les cours de soutien rémunérés au sein des établissements publics et privés. Cette mesure a suscité de nombreuses réactions, aussi bien du côté des structures scolaires que des enseignants. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous demanderai d'abord un éclairage sur certains termes et expressions. Je m'adresse à vous, monsieur le directeur général des enseignements. Que signifient les expressions suivantes? Cours de soutien, cours privé, cours de mise à niveau et que sais-je encore, lequel ou lesquels cours sont interdits par le ministère?
Donc, un cours de soutien, et c'est en fait une intervention que le professeur fait à l'endroit des élèves ou que l'administration organise ou que d'autres partenaires peuvent organiser pour remettre un peu à niveau les enfants si on constate un temps soit peu quelques des défaillances ou des difficultés, n'est-ce pas, de mise à niveau de ces enfants-là. Donc, un cours de soutien, c'est un cours qui vient de la part ou de l'administration ou du parent ou de n'importe quel acteur, partenaire, mais un cours qui se fait uniquement dans le seul but de mettre à niveau l'enfant sans contrepartie. Voilà. Maintenant, les cours privés, c'est des cours, vous l'avez dit, tout ce qui est privé a une connotation lucrative. C'est des cours que les gens font et qu'ils font payer. Vous voyez? Donc, cela veut dire que ça peut se faire n'importe où, à la maison, dans un lieu quelconque. Mais c'est des cours qu'on donne à un professeur, qui n'est pas nécessairement le professeur qui tient l'élève en classe, n'est-ce pas? Pour réviser, pour le mettre aussi, en tout cas bien le préparer. C'est ça qu'on appelle des cours privés. En fait, il faut le dire, c'est des cours payés. Voilà. Et l'autre aspect, vous avez dit, c'est des cours
de mise à niveau.
Oui, les cours de mise à niveau, c'est la même chose. C'est des cours de soutien. Des cours de soutien parce que à l'entrée, par exemple, d'un niveau, on peut constater que les enfants ont des insuffisances. C'est ce que nous avons fait récemment avec notre dernière révision de nos programmes. Nous avons constaté que les enfants qui viennent en sixième ont des difficultés pour se mettre à niveau, pour aborder en fait la classe de sixième. Qu'est-ce qu'on a fait? Il y a des aspects sur lesquels on a prévu un dosage, notamment le français et les calculs. Et ça, c'est les cours de niveau. Ça permet, en tout cas, de remédier aux insuffisances constatées. Ça peut aussi être le professeur lui-même constate que le chapitre n'a pas été compris ou bien que l'enfant qui rentre en cinquième, par exemple, a des insuffisances par rapport à ce qu'il devrait assimiler en sixième, il essaie de rattraper pour le mettre à niveau.
Alors, qu'est-ce qui est interdit par le ministère?
Ce qui est interdit par le ministère, c'est les cours privés rémunérés qui se font à l'école et par les professeurs eux-mêmes qui tiennent les élèves. Voilà, c'est ce genre d'intervention que nous avons refusé. Mais tous les autres cours qui sont organisés, qui permettent à la grande masse de bénéficier et de se mettre à niveau, le ministère ne sait que ça. On ne peut pas mettre ça en cause. On ne peut pas refuser que des parents d'élèves qui, après un diagnostic, qui après avoir jugé en fait, le niveau des enfants, disent que tel groupe d'élèves a besoin en fait, d'une aide en français, tel autre en maths, tel autre en anglais. Comment est-ce que le ministère va être contre cela?
Donc le problème, c'est la rémunération.
C'est la rémunération qui se fait
aussi dans les établissements.
Dans les établissements publics ou privés et par, le plus souvent par les mêmes professeurs qui tiennent ces élèves-là en classe.
Nous allons revenir à vous, le temps de donner la parole à la section lycée et collège de l'Union des scolaires du Niger, qui est représentée ici par Mohamed Abdou Oumarou. Est-ce que c'est la compréhension que les scolaires ont eue de la décision du ministère?
Mais tout d'abord, j'aimerais d'abord assez que on m'explique certaines choses au niveau du ministère. C'est vrai, cette lettre a été sortie, mais normalement, on devrait au moins, c'est-à-dire toucher soit les parents d'élèves, soit les enseignants, soit la section lycéenne et collégiale. Et ce qui n'a pas été fait. Et si vous avez constaté, nous, cette lettre, on l'a vue uniquement sur les réseaux sociaux. On a essayé d'abord de contacter nos partenaires pour voir c'est comment suite à cette lettre. Ils nous disent non, et cette lettre ne vient pas d'eux, ça vient du ministère. Et la lettre n'a pas été bien précise. On n'a pas bien précisé. On parle de quel cours. En plus, nous, ils nous ont dit qu'ils ont fait des enquêtes. Ils ont fait 6 mois d'enquête pour voir, il y a des professeurs qui font ce genre de cours pour pouvoir donner les épreuves souvent aux camarades pour qu'ils puissent traiter avant même les devoirs. Et moi, aujourd'hui, je ne peux pas dire que ça ne se fait pas. C'est vrai, ça se fait, mais ce n'est pas tout le monde qui le fait. Si vous avez fait des enquêtes, réellement vous avez fait des enquêtes, vous devrez attraper les coupables. Vous les mettez devant le fait accompli. Mais vous ne pouvez pas faire sortir une lettre pour dire à tout le monde que voilà, on arrête les cours subitement. Et nous ne pouvons pas comprendre cela. C'est pour cela que nous, automatiquement, la base nous a touchés et on a convoqué tout le monde à réunion. Voilà cette lettre. Nous n'avons pas été appelés par le ministère pour nous éclaircir les choses. Et nous, la base a pris une décision ferme suite à ça. Et si vous avez constaté, on a lancé d'abord un mandat de 24 heures pour interpeller. Mais l'homme politique ne nous a pas appelés. On a encore renouvelé, c'est-à-dire cette mode jusqu'à avoir son nos oreilles. On s'est donné rendez-vous au niveau du ministère de l'enseignement secondaire pour pouvoir dénoncer et peut-être même nous éclaircir là-bas. Bien. Mais compte tenu de la situation, ils nous ont arrêtés avec les forces de l'ordre. On n'a pas pu se rendre au niveau du ministère pour pouvoir dire notre mécontentement. Parce qu'on est des élèves, il faut nous faire comprendre les choses.
Donc vous, en gros, qu'est-ce que vous n'avez pas compris?
C'est surtout cette lettre, parce qu'elle n'est pas claire.
Le directeur vient de nous dire que c'est les cours de soutien qui sont rémunérés et qui sont organisés dans les établissements publics et privés qui est interdit.
Mais c'est-à-dire, c'est pas après le dégât qu'on vient pour nous amener, c'est-à-dire des éclaircissements suite à cette lettre. C'est avant même de la mettre en pratique. Si ça aurait été que le ministère nous a appelés pour nous dire voilà, nous allons faire sortir telle lettre, et voilà, qu'est-ce que vous en pensez? On va donner notre point d'avis. Nous aussi, on est contre cela. C'est aussi une bonne chose de faire ce genre d'enquête, mais il faut cibler. Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même bateau.
Nous allons donner la parole à l'enseignant, le représentant du syndicat national des enseignants du secondaire, M. Moussa Adamou. Nous avons vu que les scolaires regrettent de n'avoir pas été associés, de n'avoir pas eu l'information. Est-ce qu'au niveau des enseignants, au moins l'information a passé avant d'être partagée sur les réseaux sociaux? Et comment vous avez compris cette information?
La première des choses que je voudrais dire, c'est que autant que les élèves, nous n'avons pas été approchés ni de près ni de loin par le ministère des enseignements secondaires avant cette prise de décision. Pourtant, dans le cadre de nos échanges avec les autorités du ministère, nous avons toujours prôné l'approche participative qui consiste, lorsqu'on veut prendre des décisions d'une très grande envergure, de faire appel à nous pour recueillir au moins nos points de vue afin d'éviter les éventuels conflits qui peuvent émerger des décisions unilatéralement prises. On est dans le cas d'espèce où nous n'avons pas demandé une co-gestion. Nous sommes sous la responsabilité entière du ministère. Nous reconnaissons la compétence du ministère pour prendre des décisions. Cependant, le ministère se donnerait beaucoup plus de chances de voir ces décisions aboutir si le ministère associait les différents partenaires, comme les enseignants, comme les parents d'élèves, comme les élèves. Dans le cas d'espèce, nous, les syndicats, nous n'avons pas été approchés. Nous avons appris, comme tout le monde, par l'intermédiaire, cette fois-ci, nous, par le communiqué papier, si on peut le dire, la lettre circulaire, la mesure d'interdiction.
Vous, est-ce que vous avez eu une impression de flou. Par exemple, les scolaires disent que la lettre n'est pas précise.
Oui, nous avons très vite compris qu'il s'agit des cours que les enseignants organisent dans les établissements publics et privés sous la forme de soutien aux élèves qui peuvent venir de plusieurs horizons. Et le ministère dit remettre en cause, en tout cas rejeter cette pratique à cause du caractère rémunéré des cours. Ce qui avait fait que, dès que la mesure a été portée à notre connaissance, partout, je dis, respectueux de l'ordre que les enseignants sont, ils ont arrêté ces cours-là. Les vérifications peuvent être faites. Cependant, nous, les syndicats, nous avons été approchés dans le sens d'aller vers le ministère pour chercher finalement, a posteriori, les raisons pour lesquelles les décisions ont été prises, des décisions de ce genre ont été prises sans que nous soyons concertés. On a parlé de rupture d'égalité. Cette rupture d'égalité s'entend au niveau du ministère comme si il y a des parents, des élèves dont les parents ne sont pas financièrement aptes pour supporter les frais liés aux cours de rémédiation, aux cours de soutien. Or, ces cours, il faut que les gens le sachent, ce n'est pas des cours suffisamment rémunérés. C'est des cours qui coûtent à un élève 5 000 francs, au maximum 10 000 francs pour toutes les matières. Donc, si on fait le total, un cours ne dépasse pas 200 francs par élève. Quand cela ne tienne, il n'y a pas obligation. Si le ministère a la preuve qu'il y a des enseignants qui obligent leurs élèves à prendre des cours, à payer à ces cours-là, le ministère aurait dû se saisir d'eux pour les sanctionner.
C'est des cours auxquels les élèves souscrivent volontairement.
Volontairement, effectivement. Et de façon volontaire, donc, ils participent. Maintenant, si certains parmi nous dérogent par rapport à ces principes, il aurait fallu les prendre et nous les servir d'exemple et les pénaliser. Tel n'a pas été le cas.
Et le ministère aussi fustige le fait que ces cours rémunérés se passent dans les établissements publics et non en dehors des cadres.
Mais vous savez la raison pour laquelle ça se passe dans les établissements publics? C'est parce que c'est dans les soirées que les cours se passent, les cours de soutien se passent. C'est des cours qui se font à partir de 16h. À 16h, il n'y a plus personne. Les cours s'arrêtent à 13h30. Donc, les enfants sont rentrés. Ils reviennent à 15h, 15h, 16h, pour faire les cours jusqu'à 18h. Et c'est 2 heures de temps par jour et par matière. Si le ministère ne veut pas l'occupation des établissements publics, pourquoi le ministère va encore impliquer le privé? Le privé, c'est vrai, c'est sous l'autorité de l'État, mais ce n'est pas des bâtiments construits par l'État. C'est organisé dans des établissements, comme on dit, privés, auxquels le ministère n'apporte pas aussi sa part de contribution, la subvention. Donc, c'est le privé aussi.
On va poser ces questions, on va revenir. Nous donnons la parole à Ousilmane Rasratan, qui est le vice-président de l'Association des parents d'élèves et d'étudiants. Vous, comment vous avez accueilli cette information et quelle était votre impression?
Par rapport à cette question, chacun de nous a sa robe et chacun de nous a sa façon de voir les choses. J'aimerais bien préciser une chose que nous, en tant que secteur de parents d'élèves, nous avions assisté pendant le mois de mars à un atelier à l'UNICEF où il y a eu des experts qui sont venus pour parler effectivement de cette situation de l'élève nigérien. Au cours de cet atelier, toutes les structures, parce que j'ai vu le TDR, les structures étaient invitées, y compris les enseignants et les scolaires qui malheureusement n'étaient pas présents. Et au cours de cet atelier, effectivement, c'est là que nous avions compris que le ministère est en train de prendre des dispositions parce que le débat a été posé. Et le secrétaire, la personne du secrétaire général même de l'Association nationale des parents d'élèves qui a posé cette question au SG du ministère qui présidait la rencontre, il a été apporté des informations sur tout ce que vous avez développé tout à l'heure. Donc dès là, nous avons eu vent que quelque chose est en train d'être préparé. Mais malheureusement, dans la prise de décision, je ne sais pas, le DG est là, ils sont autonomes pour la prise de décision. Nous avons vu la circulaire sortir. En fait, nous, en tant que parents d'élèves, nous avons notre façon de s'infiltrer dans la gestion des établissements scolaires à travers la structure de COGES. Et nous avons toujours dit que tout ce qui s'est fait dans l'enceinte d'un établissement doit être pris en compte dans la structure organisée qui est le comité de gestion décentralisé des établissements scolaires, qui, à travers un plan d'action, élabore toutes les activités, y compris celles qui rentrent dans ce cadre de pédagogie, élabore un plan d'action qui peut être soutenu par les cotisations des parents d'élèves pour ramener nos enfants à un niveau d'études plus élevé et acceptable pour qu'ils puissent finir l'année en beauté.
Vous regrettez le fait que certains partenaires n'aient pas été informés?
Effectivement, nous le regrettons parce qu'aujourd'hui, ça nous a amené dans une situation où nos enfants sont mal à l'aise, ils sont arrêtés, ils sont devant le juge, les cours sont vides. C'est normal que nous puissions regretter cela.
Bien. Nous revenons à vous, monsieur le directeur général des enseignements. Cette décision a été prise suite à un rapport d'enquête qui date de 6 mois. Est-ce que vous pouvez confirmer et nous dire un peu les principales motivations du ministère en prenant cette décision?
Heureusement que tous ceux-là qui ont intervenu reconnaissent qu'il y a un jeu de rôle dans la gestion du système. Le parent d'élève joue son rôle, les enseignants jouent leur rôle, les élèves ont leur place. Donc, dans ce jeu de rôle-là, je crois qu'il a dit que ce n'est pas une co-gestion. La prise de décision ou la gestion, ça revient au ministère des enseignements secondaires. On ne peut pas demander aux élèves comment faire, par exemple, dans l'élaboration des programmes ou autre chose, ou des décisions. Non. Le ministère prend, dans la logique des choses, des décisions qui vont dans la bonne marche, n'est-ce pas, du système. Parce que le rôle dévolu au ministère, c'était ça, le développement de ce pan du secteur éducatif. Donc, dans ce cas-là, je crois que, informé ou pas informé, quand le ministère prend des décisions, il faut prendre du temps à l'analyser avant de s'adonner à certaines intoxications.
Est-ce que le ministère, de son côté, a pris le temps de faire la part des choses, comme on dit? Parce que certains disent qu'eux, ils n'ont pas été associés. On ne leur a pas dit exactement de quoi il s'agit. Oui. Ils ont découvert, voilà. Et que si normalement il y avait des cas de fraude, des cas de tricherie, normalement le ministère, pour avoir fait une enquête, devrait indexer des responsables.
On n'indexe pas X ou Y, c'est des pratiques où chaque matin que Dieu fait, des parents viennent se plaindre, des élèves viennent se plaindre. Et nous-mêmes, nous le constatons, parce que rares sont parmi nous celui qui n'a pas été victime, qui a un enfant à l'école, qui n'a pas été victime de cette situation-là, ou l'enfant, pour refuser d'aller au cours privé, est mal vu dans le bon déroulement des cours. Ça, c'est un. Mais le ministère aussi gère. Le ministère voit ce qui se passe sur le terrain. Quand on constate qu'il y a un phénomène qui est en train de détourner la mission première de l'enseignement au profit d'autres choses, il est tout à fait évident que le ministère ne peut que prendre, en tout cas, une décision pour y mettre fin. Tous ceux qui ne contribuent pas, en tout cas, à la bonne morse, à la bonne gestion du système, le ministère a la responsabilité de l'arrêter ou de permettre.
Est-ce qu'il y a des cas illustratifs?
Il y a plusieurs cas illustratifs. Ils le savent. Même l'élève vient de reconnaître actuellement qu'effectivement, il voit des cas. Nous, c'est toute une banque de données. Parce que c'est suite aux plaintes, en dehors même de cette enquête-là. Mais ce que l'enquête a révélé, c'est effectivement, nous avons compris que c'est la conséquence de cette pratique-là qui n'a jamais existé dans notre système, mais qui est en train de prendre de l'ampleur.
Est-ce que dans les conclusions de ce rapport, il a été recommandé peut-être des sanctions à l'endroit de cas flagrants?
Ce n'est même pas question de sanctions. Ce qu'ils nous ont dit, c'est que l'élève nigérien, ce qu'il développe, c'est la mentalité de corruption. La mentalité de corruption, ils ont dit que si notre système est aujourd'hui, et dans cette situation-là, c'est parce que tout simplement, il y a cet esprit-là qui est en train d'être cultivé au niveau des élèves. Et ça commence là-bas en classe avec ces pratiques-là. Il faut y mettre fin. Où les enfants pensent qu'ils ne peuvent pas voler de leurs propres ailes si ce n'est pas un soutien. Ils ont cet esprit d'assister et ils mettent les parents dedans. Parce que quand l'élève pleure, va vers le parent ne peut qu'accepter. Un professeur, tu as une responsabilité, tu as un volume horaire, tu as un programme à achever et tu as un contenu à donner en totalité à l'ensemble des élèves de ta classe. Pas à moitié. Et l'autre moitié, c'est seulement ceux qui viennent avec moi et qui ont donné quelque chose qui peuvent l'avoir. Voilà ce que nous refusons. Voilà ce que le ministère a refusé. Mais il y a, le parent d'élève vient dire, il y a des structures organisées, il y a des cours organisés. Les COGES, là, tout le monde paye sa petite cote-part. Dans chaque établissement. Ça, on ne fait pas de distinction. On ne peut pas dire que ce n'est pas celui qui a donné 5 000 ou celui qui a donné 1 000 francs. Non. Ce n'est pas comme ça.
Monsieur le directeur général des enseignements, dans la lettre, par rapport aux raisons avancées, on parle de rupture d'égalité entre élèves, on parle de climat de suspicion entre élèves et enseignants, et entre élèves et parents d'élèves quant à la justesse des évaluations.
Mais oui, parce que, commençons par les parents d'élèves. Ils sont en train de payer les élèves parce qu'ils font partie de ceux-là qui font ces cours-là, ont des bonnes notes. Toute l'année, ils ont de bonnes notes.
N'est-ce pas que le cours de soutien leur apporte quelque chose de positif?
Non, c'est pas la réalité, il l'a dit. C'est pas la réalité. Malheureusement, à l'examen, ce n'est pas ça. Ou l'évaluation se fait à un niveau autre que celui du professeur. Vous voyez? Ce n'est pas ça. Ils induisent les parents en erreur. La suspicion, c'est entre élèves, entre eux et élèves. Tout le monde sait que l'enseignant, là, qui a ses élèves, ses propres élèves, là, dans son cours privé, ces élèves-là ont toujours la meilleure note parce qu'il ne peut pas se contredire.
Et quand vous dites que c'est un climat de suspicion entre élèves aussi, hein, et parents d'élèves, est-ce que là aussi...
Les élèves sont là, il faut demander s'il n'y a pas... S'il y a
ça
pas
veut dire que certains parents sont conscients, ils contribuent.
Ils sont conscients parce que, mais j'ai dit, devant les larmes de l'élève, de l'enfant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous-même, vous allez faire la même chose.
Et Mohamed Abdou Mourou, qui représente la section lycée-collège de l'USN ici, sur ce plateau. Mohamed, quelle est votre opinion au sujet des raisons avancées par le ministère?
J'aurais voulu assez que le ministère puisse nous édifier clairement comment cette lettre a été établie. Parce que c'est une question que vous l'avez posée. C'est quelle association, plus quel ministère, plus le ministère, ils ont eu à faire, c'est-à-dire des enquêtes pour pouvoir voir les choses réelles sur le terrain avant de prendre cette décision. Mais le ministère ne l'a pas fait. Le ministère nous dit que quand le ministère prend c'est-à-dire une décision, elle est ferme. Donc, elle n'a pas besoin de demander l'avis de X ou de Y. C'est ce que le ministère vient de nous dire. Moi, je me dis que les cours privés, là, ce n'est pas l'État qui nous donne l'argent pour aller faire les cours privés. Parce que si vous prenez l'exemple en terminale, le programme est long. Les élèves ne peuvent en aucun cas finir le programme. On ne peut pas finir le programme. D'abord, le professeur qui nous enseigne, par exemple, en philo, il ne peut pas finir le programme du philo. Malgré qu'on est dans une année normale actuellement, quand le ministère nous a provoqué et que l'année est en train d'être titubée. Parce que c'est le ministère qui nous a provoqués. Nous avons beaucoup de revendications que nous avons mises à l'écart. Nous nous sommes dit que trop, c'est trop. On va étudier dans ces misères, dans cette misère pour pouvoir relever le défi. Nous avons déposé notre plateforme. Où sont ceux qu'ils ont eu à faire suite à cette plateforme? Ils ne l'ont pas fait. Mais aujourd'hui, on ne peut pas comprendre. On paye de l'argent pour qu'on renforce notre capacité. Parce qu'il faut se dire, le professeur peut te donner des cours en classe. Le professeur, il a un programme à terminer. Il n'a pas le temps pour les exercices. Quand tu vas aller au bac, tu ne vas pas aller faire un cours. On va te donner un sujet à traiter. Et si un élève ne peut pas traiter le sujet, chaque jour, un élève de terminale qui ne peut pas traiter un sujet de philosophie, dans la semaine, 3 ou 4 fois, je pense que ce dernier-ci, même s'il part au bac, là, il ne peut rien faire.
Et à votre avis, c'est ce que ces cours de soutien permettent?
Mais ces cours de soutien-là nous permettent, c'est-à-dire de nous préparer bien pour le bac. Là-bas, ce ne sont pas des cours, hein. C'est des exercices. Et uniquement sur des chapitres. L'argent là que nous sortons, ce n'est pas l'État. C'est notre argent, c'est l'argent de nos parents. Vous allez constater dans une famille, le parent ne peut même pas se décarcasser pour pouvoir payer les cours privés. Soit peut-être il va aller voir un oncle qui va prendre ses cours privés en charge. C'est le cas avec moi. Moi, j'ai une tante qui me paye mes cours privés que je pars faire. Et c'est des exercices. Et puis, les professeurs viennent de divers horizons.
Et pourquoi ne pas appeler des enseignants chez eux, chez toi, chez vous, pour faire ces exercices?
Mais
ce
n'est pas tout le monde qui a ses moyens. C'est pas tout le monde qui a ses moines. Le professeur vient de le dire tout à l'heure. Le cours là, c'est 5 000, voire 10 000. Et ces 5 matières, je vous dis, ce n'est pas les mêmes professeurs dans les mêmes écoles.
Ça peut changer les frais si tu dois appeler le professeur chez toi.
Mais ça peut changer. Aujourd'hui, on te dit un professeur de français à la maison, il peut te prendre 25 000 subitement ou même 15 000. Moi, c'est ça que j'aimerais assez que le ministère nous dise. Il faut, si vous attrapez un voleur dans la société, on le met devant les faits accomplis. On l'amène à la justice. Mais le professeur là qui pose ce genre d'actes que vous avez constaté, les pleurs là, il faut poser la main sur ces gens-là. Parce que c'est la corruption en milieu scolaire qui s'est faite. Nous, on n'a pas ces moyens de pouvoir dénoncer cette corruption. Mais si vous avez fait des enquêtes pour voir, mais pourquoi ne pas dénoncer ces gens-là? Alors que vous savez très bien que ces gens-là sont, c'est-à-dire, des microbes dans la société.
Monsieur le directeur, rapidement, avant qu'on ne donne la parole.
Le ministère a dit qu'une décision est prise et que c'est comme ça, c'est définitif. Non, je n'ai pas dit qu'une décision est prise et que c'est définitif, mais j'ai dit que la responsabilité de la prise de décision, c'est au ministère, c'est imputé, c'est pas à un autre niveau. Nous organisons un temps scolaire, un système scolaire des programmes scolaires qu'il faut suivre et un enseignement scolaire qu'on doit suivre et évaluer. Nulle part dans notre système, il n'est prévu cette pratique-là que vous êtes en train de dire. Donc, si vous voulez introduire dans le système éducatif, dans le système, notre système, un élément nouveau qui ne cadre pas avec la mission ou les objectifs de l'enseignement secondaire, nous avons dit, nous allons dire non, ça ne peut pas aller. Vous ne pouvez pas faire du forcing par rapport à ça.
Nous allons passer la parole à l'enseignant qui est là présent, qui porte la voix des enseignants. Qu'en dites-vous par rapport à ces raisons avancées?
C'est nous-mêmes nous qui sommes accusés d'être des corrompus, d'être pratiquement des gens qui demandent de l'argent pour dispenser des cours.
Et qui contribuent au développement de la mentalité de corrompus.
Voilà, et qui contribuent au développement de la mentalité de corrompus parce que nous faisons venir des élèves dans un temps qui n'est pas le temps de travail. Nous faisons payer de l'argent.
Ce n'est pas vrai.
Il y a une part de vérité dans ce qui est dit. De loin, on a l'impression que tout l'ensemble des élèves qui participent à ces cours-là paient effectivement. Mais allez-y chercher à savoir. Aucun professeur n'a jamais renvoyé un enfant à un cours de soutien pour n'avoir pas honoré son engagement en fin de mois. Mais c'est des élèves qui viennent de différents établissements et les professeurs ne sont pas des mêmes établissements. Donc, le risque de fuite là est atténué. Maintenant, on nous a parlé de rupture d'égalité. C'est nous, les enseignants, qui sommes victimes de rupture d'égalité depuis plusieurs années. Quand on a dans nos rangs des contractuels qui sont payés après 45 jours, alors qu'ils fournissent la même quantité de travail que des enseignants titulaires qui sont payés chaque 30 jours, il y a déjà la rupture d'égalité. Lorsque dans le domaine de l'enseignement, nous nous posons toujours des plateformes revendicatives sans que le ministère daigne même examiner le contenu, alors que dans d'autres secteurs, automatiquement ils sont appelés et satisfaits, je peux dire qu'il y a rupture d'égalité dont le ministère est à la base. Donc finalement, il ne faut pas... Nous, le problème, nous le voyons puisque...
Et la question des évaluations. Le fait d'avoir des élèves...
Mais ça, c'est un acte délictueux pour lequel on aurait dû prendre la main dans le sac les personnes qui ont fait un tel arrangement. Qu'on nous dresse la liste de ces enseignants-là et qu'on les poursuive pour voir si nous, les syndicats, nous allons broncher. Ou bien que nous, les enseignants, nous allons vouloir couvrir, protéger quelqu'un qui a fait une telle fraude. Mais puisque le ministère n'a pas établi une telle liste, nous disons que c'est des arguments que le ministère développe comme cela. Encore une fois, nous trouvons que le problème a été, non pas qu'il a été mal posé, mais il n'a pas été opportunément posé. Nous sommes à quelques 2 mois de la fin de l'examen. Nous aurions voulu, et c'est ce que nous avons dit lors de notre rencontre entre la FSS et le ministère, nous avons dit que nous aurions voulu que le ministère patiente au moins pour aller à la fin de cette année, pour prendre la décision que l'année prochaine, il n'y aura pas ce genre de cours-là.
Vous aurez été d'accord?
Oui, nous aurons été d'accord, pourquoi pas? Parce que là, ça ne perturberait pas l'année en cours. L'année en cours est en train d'être perturbée par cette mesure-là. Non pas par nous les enseignants qui avons déjà notre plateforme en souffrance, mais par les élèves qui se sentent directement interpellés. Nous sommes des légalistes, nous avons accepté leur loi, nous avons accepté ce que le ministère a dit. Nous n'allons pas aller voguer à contre-courant de la décision de notre ministère. Et nous avons accepté la décision de ne pas faire ces cours, ce que nous sommes en train d'observer, jusqu'à ce que le ministère lève cette mesure. J'espère que le ministère va pouvoir réexaminer les conditions.
Bien, nous passons à une deuxième partie de cette émission concernant les conséquences. Nous avons vu que cette décision quand même a suscité beaucoup de réactions et des conséquences s'en sont suivies, notamment des grèves des scolaires par-ci, par-là. On se rappelle de cette manifestation du mardi 9 avril passé qui s'est soldée par de nombreux blessés, aussi bien du côté des forces de l'ordre que du côté des scolaires, des arrestations et d'énormes dégâts matériels, en tout cas occasionnés dans la ville de Niamey. Mohamed Abdou Marou, de la section lycée et collège.
Les dégâts là, ce n'est pas les élèves qui ont fait ces dégâts matériels et consorts. Donc tout
c'est
le monde accuse les élèves en disant que c'est les élèves qui sont des badauds, on brûle les pinets. Non, c'est plutôt les badauds qui ont influencé la base pour pouvoir brûler les pinets et consorts sur le goudron. Et moi, je dis bien, le jour où on avait donné un rendez-vous au niveau du ministère, je vous assure, sur le goudron du Corombé, moi, j'avais demandé aux élèves de s'asseoir sur le goudron et d'ouvrir les cahiers, de faire semblant comme s'ils sont en train d'étudier. Et c'est en ce moment-là que les forces de l'ordre ont commencé à acheter les gaz lacrymogènes. S'il vous plaît.
Suite à cela, il y a eu beaucoup d'arrestations. Beaucoup. 97 de vos camarades ont été arrêtés.
Oui.
Est-ce que vous avez leur nouvelle?
Nous avons leur nouvelle. Depuis avant-hier, vers 18h, on a eu jusqu'à avoir 60% de ces camarades qui ont été libérés. Mais ils ont été libérés sur des couchons. Ils ont dit que les élèves ont fait, c'est-à-dire les dégâts de 17 millions, plus de 17 millions de dégâts qu'on a eu à faire. Mais si c'est 17 millions, on fait 94 élèves. Mais on fait 17 millions divisé par 94 élèves pour qu'il puisse y avoir d'équité. Mais il y a des élèves qui vont payer 60 000. Il y a un élève qui doit payer 1 300 000 francs. Il est de la commune 3. Il y a des élèves qui doivent payer 400 000. Là, il n'y a pas la justice. Là, il n'y a pas la justice.
Et vous voulez dire qu'ils ont été libérés après avoir payé?
Après avoir payé. Parce que jusqu'à présent, il y a des camarades qui sont au niveau de l'école de la police qui n'ont pas encore payé et qui sont toujours gardés là-bas comme garde à vue. On demande à ce qu'ils payent ses sons. Imagine un élève assis à celui qu'on dit il faut amener 1 300 000 pour qu'on puisse te relâcher. Où est-ce que les parents vont avoir de l'argent?
Nous allons aller sur les pistes de solutions. Nous avons entendu les uns et les autres par rapport à cette décision. Manque de concertation avant la prise de décision. Enquête qui avait précédé cette décision. En tout cas, l'enquête a fait un certain nombre de recommandations qui ont justement débouché à cette décision. Aujourd'hui, je m'adresse à vous, monsieur l'enseignant, Moussa Adamou, président du secrétaire général du syndicat national des enseignants des enseignants du secondaire. Quels sont aujourd'hui, vous, à votre avis, les principaux points sur lesquels aujourd'hui il peut y avoir entente pour ramener la calmie?
Moi, je propose, comme nous l'avons fait lors de notre rencontre avec le ministre, entre la FESS et le ministre et les cadres de l'enseignement, les directeurs techniques, nous proposons les sorties de crise suivantes. Sursoir, ne serait-ce que provisoirement, à l'application de cette décision jusqu'à la tenue des examens de fin d'année pour que la calmie revienne, quitte à ce qu'on mette en place un comité paritaire, un comité en tout cas qui regrouperait l'ensemble des participants au système éducatif, l'ensemble des acteurs au système éducatif pour dégager une solution, pour dégager des points de vue consensuels qui permettront de ramener pour l'année prochaine. Mais pour l'instant, du moment où la piste c'est en train de causer de cette décision est en train de causer des troubles au niveau du système scolaire, nous voudrons bien que le ministère comprenne que ce n'est pas pour totalement rejeter ce qu'il a dit, mais nous faisons appel à la bonne conscience des autorités du ministère pour revenir provisoirement sur cette décision jusqu'à l'année prochaine. Ce n'est pas une remise en cause de leur autorité. Si on prend l'exemple du Gabon récemment, les Gabonais, c'est applicable. Les Gabonais sont revenus sur la décision de 19 ans avec 12 de moyenne pour avoir la bourse. C'est cette semaine-là que le ministère a pris la décision et le gouvernement a pris la décision. Les élèves ont protesté. Le gouvernement est revenu là-dessus. Donc on peut reculer juste pour nous entendre, pour bien finaliser cette année. Si l'année prochaine, sur ce qu'on s'est entendu, tout le monde doit s'entendre sur quelque chose avant le début de l'année prochaine. Le ministre, lors de notre rencontre, a dit... Nous avons rencontré le ministre et il a dit, contrairement à l'avis d'entre eux qui a dit qu'il fallait... Il n'est pas question de revenir sur la décision. Il fallait donner au ministre des arguments pour qu'il maintienne sa décision. Lui, le ministre, il nous a dit la chose suivante. Moi, je n'ai pas l'orgueil de dire que je ne veux pas revenir sur mes décisions. Et nous avons noté cela avec satisfaction. Donc, que les techniciens du ministère, en premier lieu, le directeur général des enseignements ici présent, qui est l'initiateur de la lettre, fassent preuve de compréhension à notre niveau, au niveau des élèves, des parents d'élèves et des enseignants, pour voir dans quelle mesure on peut s'asseoir à cette décision pour que l'année soit bouclée en beauté et qu'on décide de quelque chose pendant les vacances que tout le monde va observer l'année prochaine.
Monsieur Ousliman Nasratan, parent d'élèves, qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui comme solution ou piste à explorer?
Bien, je crois que Moussa Adamou a parlé en tant que parent d'élèves, pas en tant qu'enseignant, parce que cette mesure... Elle va à l'encontre peut-être s'il y a des intérêts des élèves, pas des intérêts des enseignants, sur le plan académique. Effectivement, à l'allure où vont les choses, et vraiment à 2 mois des examens, il nous est permis de demander ou de savoir comment est-ce que nous devons finir l'année. Nous avons rencontré le ministère nous aussi.
Les parents d'élèves.
Les parents d'élèves. Le Bureau national des parents d'élèves a rencontré le ministère. Et il nous a été éclairé, il nous a été donné l'occasion d'être éclairé sur les tenants et les aboutissants de cette lettre. Mais nos enfants S'il pleure, nous ne pouvons pas nous réjouir, nous. Quelle que soit la compréhension que nous avons de la chose, nous sommes redevables d'être avec nos enfants, parce que s'ils n'ont pas le moral, ils ne sont pas dans les conditions d'études, c'est nous qui en pâtissons.
Et qu'est-ce qui ressort de cette rencontre? Et puis qu'est-ce que vraiment vous suggérez?
C'est de dialoguer, d'instaurer toujours le dialogue. C'est toujours d'instaurer le dialogue. Vous voyez, aujourd'hui, même ce simple débat nous a permis aujourd'hui de comprendre individuellement, nous qui sommes là, quelle est la teneur de cette circulaire. Donc c'est pourquoi j'ai lancé un appel à l'endroit du ministère et des scolaires de s'entendre et de comprendre cette situation, se retrouver pour qu'ils puissent vraiment, parce qu'ils sont concernés, c'est les deux qui sont concernés au premier plan, les scolaires et le ministère. Vraiment, si cette décision, nous l'acceptons, mais si elle est en train de créer des situations, il faut peut-être revoir son applicabilité, comme l'a dit le camarade secrétaire général du SNES, de voir s'il y a lieu de s'asseoir et revenir l'année prochaine pour que nous puissions finir une année que nous avions très bien commencée. Merci.
Alors, Mohamed Abdou Marou, représentant de la section lycée et collège, est-ce que vous avez, de votre côté, vous avez cherché à rencontrer le ministre? Vous l'avez déjà rencontré ou pas?
Et nous, de notre côté, nous avons cherché à le rencontrer, mais malheureusement, les portes étaient fermées. Donc,
vous avez cherché à le rencontrer dans la rue ou bien vous êtes parti à son cabinet?
On est même parti à son cabinet pour pouvoir demander des éclaircissements pour suite à cette lettre. Mais RAS n'a pas pu. Mais jusqu'à présent, même après ce mouvement...
Aujourd'hui, qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui pour reprendre le chemin de l'école?
Ce que nous attendons présentement, déjà l'année a pris déjà sa son ampleur. L'année est déjà finie. Donc... ce que nous voulons, c'est de libérer ses camarades et aussi cette lettre-là que le ministère a fait sortir, de l'annuler. Et là, nous allons continuer à étudier. Et l'année prochaine aussi, nous leur disons, dans Allah d'Anabi, de faire tout, au moins, même s'ils ne vont pas nous donner les classes, ils n'ont qu'à nous donner les tables-bancs. Ils n'ont qu'à nous donner les tables-bancs. Fils et de là, on leur demande des grâces de nous donner ces tables-bancs. Parce que trop, c'est trop. Nous continuons toujours à étudier à main de sol, sur des tapis, sur des briques, au 21e siècle, au Niger. Hey, s'il vous plaît, où est-ce que nous allons?
Bien, monsieur le directeur général, nous terminons avec vous, directeur général des enseignements. Aujourd'hui, sur quoi le ministère peut faire des concessions aujourd'hui pour ramener l'accalmie et permettre aux élèves de reprendre le chemin de l'école?
Le ministère, dans toutes ses prises de décision, ne fait qu'œuvre pour permettre en tout cas une réussite au grand nombre. Tout ce qui, en fait, n'est pas de l'intérêt général, je crois que c'est du ressort du ministère de faire en sorte que ça profite au plus grand nombre. Ce que le ministère demande, il y a des mécanismes de cours encadrés qui ne demandent pas de contrepartie et dont toute la masse, tous ceux qui seront concernés, peuvent bénéficier. Il faut aller vers ça, les cas de COGES, les cas d'autres partenaires ou les cas de cours de rattrapage et autres. Mais tout ce qui peut ternir, en fait, l'image de l'enseignant ou du système, je crois que je ne comprends pas que les gens ne peuvent pas comprendre que cette pratique-là est néfaste, alors que chaque matin, ils sont en train de nous interpeller par rapport à ça et dire que non, trop c'est tout, il faut y mettre fin.
Alors, puisque cette décision fait des remous, suscite des remous, est-ce qu'aujourd'hui, le ministère, pour en tout cas apporter la calmie, peut envisager...
Écoutez, la grande masse, combien de pourcentage des élèves du secondaire ou des élèves qui sont en classe d'examen profitent de ces cours privés-là?
Nous voulons bien que vous le disiez.
Sur l'ensemble du territoire nigérien, il y en a combien? Il faut leur demander, est-ce que la grande masse profite de ça? Prenons des décisions qui feront que la grande masse puisse bénéficier du soutien, de l'appui de leurs enseignants, de leur administration ou de n'importe quel partenaire, plutôt qu'une petite masse. Ça, c'est même une vision très égoïste de la part de ceux-là qui bénéficient de ce cours-là, de dire d'aller dans la même lancée, alors que la grande masse est en train de...
Est-ce qu'on doit noter que pas de consensus possible avec le ministère.
Le consensus, c'est ça. C'est
sur
ça,
cette décision.
C'est ça le consensus.
La décision irréversible. Oui.
C'est pas, je n'ai pas dit que c'est irréversible. Ce n'est pas le Coran. Ce n'est pas une décision de Dieu. C'est parce les êtres humains qui le font. Mais les êtres humains ont une responsabilité qui font qu'à un moment de l'histoire, il faut se prononcer par rapport à un phénomène social, mais pas n'importe quel phénomène social, un phénomène social qui n'avantage pas le grand public.
Quand on veut avancer sur une décision, chaque parti fait des consensus. Et c'est ce que nous voulons savoir du côté du ministère. Qu'est-ce que le ministère est prêt à faire comme concession?
Vous ne voulez pas de consensus, vous voulez le retrait pur et simple de la décision.
Moi, je pose des questions. Moi, je n'ai pas de parti, je pose des questions. Fin du forum d'aujourd'hui sur le thème interdiction des cours de soutien dans les établissements publics et privés par le ministère des Enseignements secondaires. Objectif visé et respect de la mesure. Nous étions en compagnie de Wisliman Rasratan, vice-président de l'Association des parents d'élèves et d'étudiants. Et Mohamed Abdou Morou, qui représente la section lycée et collège de l'USN, dans ce débat, Moussa Adamou, secrétaire général du syndicat national des enseignants du secondaire SNES Niger, et Inoussa Garba, directeur général des enseignements. À tous d'avoir participé à cette merci d'avoir participé à cette émission. Présentation à Alassane Kouzi Mahamadou, à la technique Kader. Merci, bonne soirée.